au réseau Cogeco. Vous écoutez Dame Bigra.
Alors, je vous rappelle notre question de première heure qui est en santé mentale en période de COVID. Est-ce qu'on a assez de ressources pour aider ceux qui sont en détresse? Alors, pour me jaser, vous m'appelez au 514-790-9850 ou à l'extérieur de la ville, le 1-866-790-9850. Je vous rappelle que le docteur Céline Lamy, qui est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme, est encore avec nous. Puis on va la garder, elle est très éclairante. Et là, on reçoit Renée Ouimet, qui est directrice générale du Mouvement Santé Mentale au Québec. Bonjour, Madame Ouimet.
Bonjour.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a des préjugés sur les questions de santé mentale?
vous avez une bonne question ce matin. C'est sûr qu'il y a encore des préjugés, même si on a fait du chemin depuis les 5, 10, 15, 20 dernières années, mais il y a des préjugés qui demeurent, mais les personnes, il y a plus de personnes qui parlent de leur histoire, de leur vécu.
Oui.
Mais j'écoutais j'écoutais l'entrevue depuis le début, et puis nous, au mouvement, on essaie justement, en lien avec les préjugés, de faire une différence entre la santé mentale, qui est quelque chose qui est positif, qui est le fait d'avoir un certain équilibre dans sa vie, d'être capable de composer avec les difficultés normales de sa vie. Et puis la santé mentale, ce qu'on dit, c'est qu'on peut aussi avoir une bonne santé mentale même en ayant un diagnostic, et on peut avoir une mauvaise santé mentale, c'est-à-dire mal dormir, plus bien manger, vivre l'anxiété sans diagnostic. Et quand on parle de problèmes de santé mentale, de troubles, de maladies, de diagnostic, là on parle d'autres choses. Fait que de faire la différence entre c'est quoi la santé, puis qu'est-ce qui contribue socialement, individuellement à la maintenir, et qu'est-ce qui influence et qu'est-ce qui contribue à, je dirais, à développer des problèmes de santé mentale. Fait que faire la différence entre c'est quoi la santé, c'est quoi la maladie, on brise déjà des préjugés en différenciant les deux.
Oui, je pense qu'on a tous une bonne job d'information à faire, parce que évidemment il y a le cliché là, de la personne en santé mentale qui est violente ou bien qui a un entonnoir sur la tête avec une camisole de force. Mmh. On a tous vu ça, ces images-là. Mais santé mentale, c'est aussi, par exemple, la dépression non diagnostiquée. La personne refuse de se soigner. Je suis pas en dépression, je vais le fighter, je vais m'en sortir, je suis plus fort que ça, comme si c'était une question de force qu'on pouvait régler comme ça. Et finalement, à force de non diagnostiquer, ça peut tourner en psychose, ça. Et je trouve qu'on est dans une période où ça risque d'arriver. Plein de gens ont perdu leur job, il y a la solitude, c'est très anxiogène ce qu'on vit en ce moment. Ça risque de créer beaucoup de... C'est déjà des files d'attente, elles vont allonger, là.
Oui, on est dans une situation qui est difficile. Puis quand j'écoutais votre entrevue, je me disais, il y a les milieux hospitaliers qui sont importants,
oui.
Il y a les organismes communautaires qui sont importants, mais tous, nous, tous autant que nous sommes, on peut faire une différence aussi. C'est-à-dire que la solidarité sociale est essentielle dans un cas de pandémie, d'être attentif aux gens qui nous entourent, de trouver des stratégies pour s'entraider, de trouver des stratégies pour réduire la solitude, d'être attentif aux personnes qu'on rencontre dans la rue. On a vu des articles sur l'itinérance, on a vu des articles. Puis il y a des gens, faut pas oublier aussi que la pandémie, il y a certaines personnes où on a entendu parler que ça leur faisait, des gens qui restent quand même avec leur travail, mais le fait d'avoir un rythme différent, à qui ça fait du bien. Fait, je me dis, il faut qu'on prenne le temps de regarder qu'est-ce qui favorise une bonne santé mentale dans un contexte
comme celui-là. Une bonne hygiène mentale. On parle
c'est
d'hygiène
ça.
Corporelle, mais l'hygiène mentale, c'est à la base de tout, là.
C'est ça. Puis qu'est-ce qui peut la favoriser, puis qu'est-ce qui peut la fragiliser? Hein? C'est important de se poser ces questions-là aussi, puis de voir comment, collectivement, on peut muscler notre santé mentale. Je pense à une recherche qui a été faite à Sherbrooke où ils parlaient de ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens qui avaient un sentiment de cohérence, c'est-à-dire être capables de comprendre ce qui se passe dans leur vie, de pouvoir gérer la situation, puis d'y donner du sens, ont beaucoup moins d'anxiété, de dépression et de problèmes de santé mentale graves, on pourrait dire. Donc, on a peut-être à travailler ça avec les gens qui nous entourent, avec nos enfants, à les outiller. La santé mentale, la musclée, ça se crée à partir de la petite enfance. Là. Ça se,
bien sûr.
Ça se fait tout au long
mais
de
ça
vie.
Peut se corriger toute notre vie, même si on n'a pas eu, pas eu les moyens de s'en occuper, on n'a pas été informé. À un moment donné, on peut rencontrer, entendre quelque chose et puis se dire, ben, faudrait peut-être que je m'occupe de moi. On l'a tous fait. On a tous eu des périodes, comment je dirais, un petit peu des périodes de réveil dans notre vie. On s'est dit, là, faut que je m'occupe de moi, ça va pas bien. Tout le monde a ça. C'est quelque chose qui définit l'humain. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une réorganisation des services du système en santé mentale?
Je vous dirais que on souhaiterait que les systèmes, que les services soient beaucoup plus accessibles qu'ils le sont, qu'il y ait des réponses plus rapides, mais on sait que c'est difficile actuellement. Bien, c'était déjà difficile avant. Là. Fait qu'on va quand même se dire ça, que d'avoir accès
à... Ça a toujours été, là, on parle de période de COVID parce qu'on est en ce moment puis qu'on cherche des réponses à nos questions maintenant, mais je m'excuse, la psychiatrie, docteur Lamy, vous me détromperez si je dis une niaiserie, là, mais il me semble que la psychiatrie a toujours été le parent pauvre de la médecine.
Ça l'est toujours, malheureusement. J'entendais parler de réorganisation des services en santé mentale, mais je préférerais presque dire une réorganisation des services en général. On parlait de santé mentale, dès la petite enfance, etc. Mais je pense qu'on a un gros problème actuellement dans notre système qui a tendance à, j'en parlais déjà il y a quelques années, à surdiagnostiquer les enfants et à patcher des symptômes qui sont en lien avec des difficultés familiales par de la médication. Et on se rend compte avec cette problématique.
Est-ce qu'on parle entre autres du Ritalin? Ça semble le mode.
Exactement. Hein. Mais on se rend compte que ces enfants qui sont confinés, ils ont des médications, ça suffit pas. Donc il faut revoir ce système qui a tendance à étiqueter tous nos enfants puis à dire la pilule va suffire. On se rend compte avec le Covid que c'est absolument pas suffisant, qu'on a besoin de thérapeutes familiaux, qu'on a besoin de psychoéducateurs, qu'on n'a pas accès à ça. Donc ça prend une reconstruction, repenser le système, que ce soit en santé mentale, avec les médecins de famille, avec les écoles, les parents. Ça prend effectivement une discussion de fond parce qu'actuellement, on est en train de percevoir les enfants au travers de notre petite lunette, que ce soit en psychiatrie ou à l'école. Oui. Il va falloir qu'on se parle tous puis qu'on se dise, c'est quoi un enfant? C'est quoi les besoins?
Un enfant n'est pas seulement TDAH. Un adulte non plus. Moi, je le suis puis je suis très bien organisé.
Et c'est pas juste une étiquette, c'est ça le problème. Oui.
Et en plus, on dit un déficit d'attention simplement parce qu'il est à l'école. Alors que moi, j'en suis un, là, on a une attention 360 degrés, on est attentif à tout. Évidemment, s'il faut se concentrer juste sur une personne et nos notes, c'est plus difficile.
Mais imaginons un petit loulou qui passe de la garderie à un système où on lui demande d'être 8 heures assis, attentif, concentré sur une personne qui parle en face, c'est physiologiquement pas possible. Même nous, en tant qu'adultes, au bout de 8 heures assis sur notre chaise, on tiendrait pas. Donc, il va falloir repenser tout ça vraiment.
Je suis entièrement d'accord.
Puis, je dirais que le COVID devrait nous permettre ça.
Écoutez, le COVID a beaucoup de conséquences atroces, mais il a servi de révélateur à beaucoup de situations.
Tout à fait.
Fait que c'est pour ça que j'essaie de m'en servir un peu pour essayer de faire avancer, mais de regarder. On peut seulement faire ça en discutant entre personnes qui ne sont pas parlées encore. Moi, j'entends plein de choses nouvelles, ça me fait du bien. Puis justement, au bout du fil, on a Mario qui, lui, est policier. Les policiers, comme les psychiatres, peut-être, vivent beaucoup dans la misère, dans la souffrance des autres. Ils vivent dans notre malheur. On n'appelle pas la police quand ça va bien, là. Alors, ils sont mêlés de proches à ça. Fait que je suis content d'entendre un policier. Salut, Mario.
Bonjour. En fait, j'appelle comme policier, mais comme citoyen aussi, là, qui a vécu une situation de crise, là, qui a eu des travailleurs sociaux qui ont dû intervenir.
Oui.
Puis, en fait, je sais pas comment l'expliquer, puis que les auditeurs là, comprennent bien la situation, là, mais un chapeau de police puis un chapeau de travailleur social, là, c'est différent.
Oui.
Puis, nous autres, en tout cas, dans notre famille, là, on a quelqu'un là, qui consomme, qui est en train de perdre sa compagnie. Puis, vous le savez, là, vous connaissez ça, le crack, là,
ben oui,
fait de la pof, tout ça. Là. La drogue, ça peut amener des hallucinations, mais ça ne veut pas dire que la personne est schizophrène. Puis la personne, elle, est dans le déni total, puis elle se voit pas là-dedans. Elle se regarde pas dans le miroir, puis elle se voit pas, elle n'a pas de problème, c'est tout le monde alentour qui a des problèmes.
Souvent dans ces situations-là, Mario, c'est que simplement, c'est que la personne est tellement loadée de souffrance, parce que, fumer un joint ou boire un verre pour le fun, récréatif, puis tu sais, tu fais ça quand tu vas bien, ça c'est une chose. Mais tu saccages pas ta vie parce que tu vas bien.
C'est ça.
Alors, là, tu vas très, très mal. Et puis, il y a beaucoup de gens qui souffrent tellement que s'ils ouvrent le moindrement la porte à ça, ils ont l'impression que tout va exploser. Eux autres sont dans le déni. Ils ont peur.
Fait que là, ils se retrouvent que, causé par la drogue, il y a des hallucinations. Ils voient des choses qui n'existent pas. Ils font des choses sans bon sens pour prouver. Puis ça a toujours une certaine logique. Tu sais, exemple, si je dis que je suis suivi par la police, puis qu'il y a un char rouge qui me suit... Ben, à chaque fois qu'il y a un char rouge, je pense que c'est le même ou c'est la police qui me suit. Fait que là, si je dis ça à quelqu'un, regarde, il y a encore un char rouge en arrière de moi. Ben oui, mais crime, il y en a combien de chars rouges sur la planète?
Oui, mais ça, c'est sa logique dans son désir. Il y a une différence entre une logique certaine et une certaine logique.
C'est ça. Fait que là, arrive que tout ça, ça s'aggrave, rentre pas de la nuit. Là, finalement, il arrive des affaires qui font que la chicane pogne avec sa famille à lui. On appelle la police pour les faire intervenir. On lui compte tout ça. Tu vois, ça n'a vraiment pas de sens. Il faudrait qu'il soit vu à l'hôpital.
Oui.
Puis on va faire intervenir les travailleurs sociaux. Là, travailleur social, le premier coup, il parle par téléphone. Mais là, il parle avec quelqu'un de la famille qui est très, très posé dans ce que la personne dit. Mais dépendant comment les questions, parce que là, il n'y a personne alentour là, pour savoir qu'est-ce qu'il se dit au travailleur social. Là.
Mm-hmm.
La personne parle confidentiellement. Après ça, la travailleuse sociale, elle ne veut pas parler à tout le monde qui sont là. On est 10. On est 10 qui pensent qu'il faut qu'il aille à l'hôpital, ça fait soigner, dont moi qui est policier. Mm-hmm. Puis, elle parle juste à la conjointe, puis elle parle juste au gars, tout ça. Là, OK, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence.
Mais c'est ça. Ça, c'est la Charte des droits. On n'a pas le droit d'interner quelqu'un contre son gré, à moins d'un danger immédiat contre quelqu'un d'autre ou contre lui. Ça, vous le savez comme policier. Mais effectivement, ça pose des problèmes parce qu'il faut tracer une limite. Est-ce qu'elle est bien tracée? On va en reparler après la pause. Merci beaucoup, Mario. Et Madame Ouimet et Docteur Lamy, je vous garde avec moi pour un dernier bloc. À tout de suite.